chronique citoyenne avec Sébastien Saint-François.
Salut Sébastien, comment vas-tu? Avec un peu de retard, mais on dispose d'un petit peu plus de temps.
Oui, on est correct. Oui. Ça va mieux qu'hier, parce que je vais te dire, je me suis couché à 2h du matin dans la nuit de mardi à mercredi. Okay. Parce que j'écoutais la couverture sur différentes chaînes. Et puis, bon, disons que j'ai pas l'habitude de me coucher aussi tard. Donc hier, ça n'a pas été une grosse journée productive chez nous. Là, ça a été bien, bien relax. Bon,
légère gueule de bois à cause de trop de... Trop de politique américaine, peut-être?
Oui, ben c'est sûr que ça a été intense. Hein? Écoute, aujourd'hui, d'habitude, je parle de plusieurs choses, mais aujourd'hui, je préfère parler d'une chose puis d'y aller plus en profondeur. Ben
là, et cette chose étant
l'élection
2.0. Là.
2.0, c'est ça.
Trump, écoute, 2.0.
Je l'avais dit la semaine passée, je crois, en terminant ma chronique, que M. Trump serait élu. Moi, ça fait plusieurs semaines que je voyais... Mon feeling, c'était qu'il était pour être élu. Ce qui m'a surpris énormément, c'est l'ampleur de sa victoire.
Tout le monde, on ne s'attendait pas à ça.
Moi, dès 22h, là, je voyais que c'était déjà... Malgré les chiffres, parce que oui, les chiffres, traditionnellement, sont toujours plus élevés pour le républicain parce qu'il va chercher tous les États rouges. Ouais. Puis là, on fait des projections. Bon, on sait que la Californie, c'est acquis aux démocrates, 54 sièges. Bon, peu importe. Harris traînait à 22h, c'est sûr, parce qu'on avait toute la côte ouest qui n'était pas dépouillée.
Côte ouest qui a voté quand même démocrate.
Oui, mais tu sais, c'est traditionnel.
Même, ouais.
Ce qui a fait la différence, c'est bien sûr le fait que Trump est allé tout rafler. Là.
Dans les États pivots. La Pennsylvanie en tête, le Michigan également.
Tous les 7 États pivots qu'on avait identifiés.
La Georgie.
Georgie, ça a été dans les premiers à être
rafler. Qui l'avait rejeté puis qui avait essayé de tricher.
Il manquait 12 000.
Il
manquait 12 000 votes.
On a voté pour lui.
Oui, on a voté pour lui. Donc, il reste le Nevada et l'Arizona. Les résultats ne sont pas finaux, mais c'est acquis à Trump. Oui. Donc, il aura remporté 312 votes électoraux contre 226 pour Kamala Harris. Mais c'est le vote populaire. Écoute, il a remporté. C'est le premier président républicain depuis Bush, fils en 2004. Rappelons-nous la foulée du 11 septembre et tout ça. Ouais. A remporté le vote populaire. 72 millions versus 67 pour Harris. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui ont voté pour lui, il y a des hispanos qui ont voté pour lui, des latinos, il est allé chercher l'électorat dans bien
des couches. Il y avait un reportage sur Radio-Canada ce matin là, où on voit une dame d'origine mexicaine, je pense, qui a voté pour M. Trump. Puis elle dit dans l'entrevue, même s'il dit toutes sortes de choses sur nous, au final, c'est nous-mêmes, personnellement, est-ce qu'on a plus d'argent dans nos poches? Est-ce que l'économie va bien? L'économie, soit dit en passant, elle est beaucoup mieux depuis un bon bout de temps aux États-Unis. À quel prix, faudra en reparler. Mais économie, donc j'ai voté pour Trump. Quoi qu'il dise sur moi, c'est fou, ça en dit long. Là.
Ça en dit très long. Et d'ailleurs, c'est l'enjeu numéro un de cette élection, ce fut l'économie. Comme on a tendance à faire ici, on blâme le gouvernement en place pour l'inflation des dernières années, alors que ça n'a pas vraiment rapport. On peut pas attribuer ça directement au gouvernement, comme ici Trudeau. Là. Bon, oui, ces politiques ont pu contribuer à alimenter la bête qui est l'inflation, mais Biden aux États-Unis n'était pas responsable de l'inflation. Cela dit, l'électeur a naturellement tendance à blâmer. C'est vous qui êtes là. Puis Kamala a dit que moi, je ferais pas différemment de Biden. Puis, mais là, vers la fin, elle se distançait, mais elle donnait rien de précis de ce qu'elle était pour faire.
Elle a eu 100 jours de campagne.
Elle a eu 100 jours de campagne.
On l'a envoyé.
On va reprocher longtemps.
Elle s'est vraiment sacrifiée pour le parti, là.
On va reprocher longtemps à M. Biden de s'être accroché si longtemps. Ça c'est fait. On a vu hier.
Parce que techniquement, il aurait dû dire je ne fais qu'un seul mandat.
Ben, c'est ce qu'il avait dit au début. Oui, il avait dit qu'il se voyait comme un président de transition.
Oui, donc, très, très rapidement, il a dit je vais faire un deuxième mandat. Très, très rapidement, à la fin de son premier mandat. Alors qu'on aurait dû peut-être s'asseoir avec lui assez régulièrement pour dire voilà, ça va être telle personne.
Ça n'a pas été fait.
En tout cas, du moins, il y aura congrès, tu quittes après. Là.
Ouais.
Merci pour tout.
Ben, c'est ça. Chose revenons à l'économie parce que, le problème, les gens, associent Trump à une force économique. Le problème, c'est que les politiques qu'il veut mettre en place vont contribuer à une inflation. Il veut imposer des tarifs, mais les tarifs, c'est qui va les payer? C'est les consommateurs américains. Il veut déporter...
Parce que si on est surtaxé, si on paye des tarifs, si on paye...
filer aux consommateurs.
Ils vont manquer de tout.
C'est ça. Déportation massive de millions d'immigrants. Je vois pas comment ça peut se faire sur le plan logistique, le plan légal. Il va y avoir des contestations. Ça coûterait des centaines de milliards de dollars de déporter tous ces gens-là. Il faut avoir des ententes avec les autres pays. Tu peux pas juste remplir un avion, débarquer ça à Haïti, puis arrangez-vous, là. Pas de même, ça marche. On a besoin, étant la société américaine, a besoin de ces gens-là qui travaillent, souvent qui font des jobs au salaire minimum. Puis le salaire minimum, dans certains États, c'est 7,25 $. Fait que les gens, là, qui travaillent au salaire minimum, là, puis qui ont vu tout augmenter de 20% depuis 3-4 ans, c'est sûr qu'ils sont en colère. Ils n'y arrivent pas. Ils sont en colère. Puis le système social, le filet social aux États-Unis est beaucoup moins généreux qu'il l'est ici. Puis même ici, les gens en ont ras-le-bol, là.
Ouais.
Fait qu'il y a beaucoup de colère. Alors,
j'entendais ce matin.
Et il canalisait tout ça, lui.
Oui, tout à fait. Puis il y a cette force-là, Trump, hein, de dire ce que l'homme fâché de 30 ans va dire au comptoir d'un diner le matin. Donc, il saisit cette affaire-là au bas.
Il canalise. Oui. C'est très bon pour canaliser.
Il va dire ce que tu veux entendre.
Exactement. Puis voilà. Ses modèles dans la vie. C'est ça, c'est des gens qui savent lire le monde. Hein?
Ouais.
Et il le fait très bien. Cela étant dit, maintenant, juste pour conclure, avant de passer à l'ère Trump 2.0.
Ouais, bon, après, on va faire la circulation avant de parler de l'ère Trump
2.0. Ce que j'ai aimé hier, c'est quand même de voir qu'il y a une forme de respect des traditions démocratiques chez les démocrates, dans le sens où déjà M. Biden a invité M. Trump à la Maison-Blanche. Il a affirmé qu'il va être présent à l'investiture. Rappelons-nous que M. Trump n'a pas fait ça à son élection. Il voulait pas voir Biden là, puis il n'a pas rencontré Biden. Puis je pense que cette fois-ci, il va le rencontrer à la Maison-Blanche, mais je pense pas qu'il y aura transition telle quelle. Trump veut rien savoir, là. Il dit, je vais m'organiser, donne-moi les clés le 20, là, puis je vais m'organiser. J'ai pas besoin de toi, Joe, là, m'organiser. Mm-hmm. Mais OK, il y a quand même une... Madame Harris a prononcé un discours hier traditionnel où elle concède la victoire. Elle dit à ses partisans, continuez votre lutte, n'abandonnez pas, mais nous devons reconnaître la victoire de M. Trump. Donc, on n'a pas le cirque qu'on a eu il y a 4 ans, là, quand Trump a perdu. Là.
Non, ça, c'est un autre cirque.
C'est un autre genre de cirque qui commence, mais au moins, il y a ce respect de cette tradition.
Mais techniquement, puis après ça, on va s'arrêter là-dessus, mais techniquement, là, moi, je suis moins féru peut-être que toi en politique américaine, sans doute moins féru. Il ne peut pas faire 2 mandats, même si parce qu'il y en a déjà fait un, ou
non,
il peut faire 2 mandats.
Selon la Constitution, c'est son dernier mandat, à moins qu'il réussisse parmi quelques miracles que ce soit de modifier la Constitution, mais voudra-t-il un autre mandat? Écoute, s'il sera à la fin de son mandat, là, il va avoir 82... Ouais. Avancer. Là.
Madame Harris l'a dit aussi, la Constitution, il faut respecter la Constitution.
Rappelons,
c'est pas un homme, c'est pas un individu, c'est pas un parti. C'est la Constitution qui dirige.
Et rappelons-nous que si jamais quelque chose devait arriver à M. Trump qui fait en sorte qu'il n'est pas en mesure de finir son mandat, qui devient automatiquement président des États-Unis? J.D. Vance. J.D. Vance.
Oui, c'est ça.
À moins qu'Elon Musk trouve une façon de contourner ça puis de prendre sa place.
À coup de millions.
Ouais.
On s'arrête un petit peu, tiens, puis on va revenir dans le trafic, puis je te garde exceptionnellement, Sébastien Saint-François. Bonjour avec Sébastien Saint-François. Exceptionnellement, Maryse Audet a fait sa chronique à 6h50. N'appelez pas à la station. Elle est où, Maryse? Elle est elle donne une conférence aujourd'hui. Bon, alors, 2.0, M. Trump.
Oui, 2.0. Donc, juste avant de partir sur ça, quelqu'un, je pense que c'est Patrice Roy qui a dit l'autre soir, il y a 4 ans, bien des Américains étaient soulagés de voir Trump quitter, alors que maintenant, on l'accueille en sauveur. Ça fait quand même ironique.
Effectivement.
Écoute, 2.0, bon, premièrement, il revient beaucoup plus en force parce qu'il a la légitimité du vote populaire derrière lui, ce qu'il n'avait pas la première fois. Il va avoir le Sénat de son bord. Il risque d'avoir la Chambre des représentants, donc le Congrès en entier de son bord pendant au moins 2 ans, d'ici aux prochaines élections de mi-mandat. Donc, il va pouvoir faire pas mal ce qu'il veut. Pas mal ce qu'il veut. Bon, on sait, sur le plan international... À surveiller de très près ce qui va arriver avec l'Ukraine. Parce que si les États-Unis coupent leur soutien à l'Ukraine, écoute, c'est fini. Là. L'Ukraine ne pourra pas résister encore bien longtemps. Trump a dit qu'il était pour régler ça en 24 heures. On verra bien. Mais donc, sur le plan géopolitique, il y a beaucoup de feu à éteindre en ce moment. Hein. Les Gaza, Israël, on parle de plus en plus d'Iran. L'Iran, c'est inquiétant. Oui. On sait que M. Trump aussi a un grand mépris des institutions, par exemple l'OTAN. Qu'est-ce qui va arriver avec l'OTAN? Parce que même pendant son premier mandat, il mettait énormément de pression sur les pays membres. Vous allez payer ou bien non, je ne vous défendrai pas si vous avez besoin de nous autres. Ça, c'est quelque chose, toute une menace à faire. Toutes les institutions en général, même démocratiques aux États-Unis. La Cour suprême, on sait qu'elle est déjà beaucoup plus conservatrice qu'elle l'était grâce aux trois nominations de M. Trump pendant son premier mandat. Est-ce qu'elle va devenir encore plus conservatrice, cette Cour, s'il a l'occasion de nommer encore d'autres juges?
Qu'est-ce que t'en penses?
Ben, je sais pas. Il peut s'exercer des pressions. Pour pousser certains juges qui sont là à la retraite. Même les juges qui ont été nommés par Bush fils, je veux dire, c'est rien en termes de conservatisme par rapport aux juges que M. Trump a nommés la dernière fois qu'il est président. Tu parlais tantôt de Kennedy et compagnie. Ce qui est très inquiétant aussi dans le Trump 2.0, avant d'arriver au Canada, c'est qu'il va... Musk, ça a l'air qu'il va être en charge de faire une grosse étude pour réduire l'État. Mais encore plus inquiétant, c'est que M. Trump, le critère numéro un pour embaucher du monde dans son administration, c'est la loyauté. Vous devez m'être loyal à moi. Ça, c'est très inquiétant dans une démocratie. Parce qu'on est loyal à l'égard de la Constitution et non pas d'une personne.
Ouais.
Pour le Canada, ça veut dire beaucoup de choses. Bon, M. Trudeau, hier, s'est prononcé. Moi, ce que je trouve inquiétant pour nous, comme Canadiens, c'est qu'on risque d'être ignoré pendant les mois à venir, parce que M. Trump n'est pas fou. Il sait que M. Trudeau est usé. Il sait que M. Trudeau n'est pas là pour longtemps. Donc, lui, il n'a pas le temps de s'occuper de nous autres. Là. Donc, il va attendre que le prochain arrive. Puis, je pense qu'on n'est vraiment pas une priorité. Ce qui m'inquiète pour nous, c'est l'ACEUM, ce qui a remplacé l'ALENA.
En
2026, c'est déjà prévu. C'était prévu que c'est renégocié. Donc, ça va être renégocié sous Trump. Il va peut-être vouloir pousser ça plus tôt puis renégocier plus tôt. La question des tarifs, bien sûr. Est-ce que ça va être mis en vigueur rapidement? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Moi, je pense qu'au niveau... une bonne chose que je pense pour la fiscalité canadienne, je crois, c'est que le gouvernement canadien va être obligé de revoir des choses. Parce qu'il va falloir qu'on s'enligne davantage sur la fiscalité américaine. Je pense notamment à les taux d'imposition des entreprises que Trump veut baisser à nouveau. Je pense à la nouvelle loi sur les impôts sur les gains à capital. On devient de moins en moins concurrentiel. Je lisais hier que notre dollar est rendu à 71 cents, en partie à cause de l'écart au niveau des taux directeurs entre la Fed puis la Banque du Canada. Et certains économistes...
La Fed annonce une baisse, je pense.
Oui, mais on est quand même beaucoup plus bas que la Fed en ce moment. Ouais. Et je lisais même, je pense que c'était dans la presse hier, que le dollar pourrait tomber sous les 70 cents. C'est pas bon, ça, pour nous. Là.
Ouais.
Alors, il y a beaucoup de... risque d'avoir beaucoup de tumulte économique de notre bord en raison des des politiques américaines.
Rapidement, là, quand on entend, on est prêt à toute éventualité, j'entendais Mme Freeland.
Oui, ils n'ont pas le choix de dire ça.
Hier, qui disait ça, on est prêt, on est vraiment prêt.
Elle a une plan.
Ben,
je sais pas, mais dans quelle mesure sont prêts. Mais c'est sûr qu'ils peuvent pas dire « Ah, on n'est pas prêts, mais on va s'organiser pour être prêts.
Ouais. »
C'est sûr que c'est un message politique. C'est un message politique, mais c'est carrément... Avec lui, tu peux avoir tous les plans possibles et impossibles, mais c'est ça, il est imprévisible. Rappelle-toi, pendant son premier mandat, il se levait le matin puis il lançait sur Twitter « Bon, ben à cette heure, j'impose tarif de temps sur tel produit de tel pays.
» Il l'a fait sur Twitter. J'avais oublié cette affaire-là.
Il gouvernait par Twitter?
Oui.
Puis là, il a sa propre plateforme. Puis bon, Elon Musk est son ami. Alors, est-ce qu'on va revenir à ce style avec, de gouvernance-là?
Oui, avec des statuts dévastateurs, bien souvent, puis comme s'il était gérant d'estrade.
Bien, comme s'il était monarque. C'est le monarque des États-Unis.
Voilà, c'est quoi le proverbe qui fait le tour là, sur Internet présentement? Faites entrer le bouffon dans le... Si vous faites entrer le bouffon dans le palais, il ne deviendra pas roi, mais le palais va devenir un cirque.
Fort possible.
C'est un proverbe.
En tout cas, ça va être à suivre. Il entre en fonction le 20 janvier prochain.
Voilà. Ben merci, Sébastien. C'est François.
De rien, bonne semaine.
Bonne semaine à toi, oui.